Il vient d'écrire un livre qui s'intitule « Code 4.1, le pouvoir de l'informateur ». C'est signé Philippe Paul, ex-enquêteur au SPVM. Bonjour Philippe Paul.
Bonjour M. Drainville.
Bon, d'abord, allons au cœur de l'action. On a vu des films, des téléséries, donc c'est des hommes, des policiers qui infiltrent le crime organisé. Et l'une des choses que je me pose comme question quand je regarde ces séries-là, ces films-là, c'est comment tu fais pour gagner, pas juste la loyauté, gagner l'amitié de quelqu'un que tu vas trahir par la suite?
Ben, écoutez, gagner l'amitié de quelqu'un, oui, mais trahir par la suite, je comprends pas exactement le sens de votre question, parce que lorsqu'on travaille avec un informateur, on gagne sa confiance et on développe un lien de confiance avec celui-ci qui va faire effectivement de l'infiltration pour la police. Et on se cachera pas que la plupart des informateurs sont des criminels, mais à la grande surprise de plusieurs, dont moi, j'ai contrôlé énormément d'informateurs, certains étaient des avocats, des juges, des gens du monde politique, des gens du monde du cinéma. Donc la criminalité touche toutes les couches de société. Donc, évidemment, on a des informateurs dans toutes ces couches-là également.
Oui, mais moi, avant d'aller là, ma question n'était peut-être pas suffisamment précise, Philippe Paul. Avant de parler des informateurs que vous avez contrôlés, oui. Vous avez été vous-même infiltrateur. Vous avez été un agent qui s'est infiltré dans le crime organisé. Pour gagner leur confiance, tu dois, à un moment donné, devenir le body de ces gars-là. Et donc, tu développes... C'est une sorte d'amitié. En tout cas, lui, il pense que tu es son chum. Puis à un moment donné, tu vas y rentrer le poignard dans le dos, là. Tu vas le livrer à la police. Là.
Regardez, moi, vous donner un exemple. Moi, j'ai déjà infiltré, par exemple, dans le monde de l'héroïne, pour acheter de l'héroïne. Et puis, j'avais été référé par un contact de cette personne-là comme étant... j'étais un très gros vendeur d'héroïne de la région de Toronto. Donc, pour lui, il me voyait comme étant une personne fiable qui pouvait écouler sa marchandise, quand dans le fond, j'étais un policier infiltré par un informateur contrôlé par un autre policier. Alors, dans certains cas, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus onéreux. Dans le cas où on fait des Mr. Big, des enquêtes grandioses où on doit infiltrer à long terme des organisations, oui, c'est coûteux. Oui, on doit gagner la confiance de ces gens-là. Pour certains, on va appeler ça trahir, mais moi, je vais appeler ça faire son travail parce que ces gens-là sont des criminels. Puis il s'agit d'un de nos outils, une de nos méthodes de travail pour en venir à bout, finalement.
Mais vous avez jamais donc vécu un espèce de conflit de loyauté, là? Quelqu'un, tu sais, dont vous étiez devenu proche, et puis là, à un moment donné, vous avez dû faire votre travail, puis il vous a regardé, puis il a dit, ah ben, je pensais que t'étais mon chum, tu sais.
La première chose qu'il faut se dire, c'est que lorsqu'on travaille cet individu-là est décortiqué. Hein. Donc, c'est un criminel, c'est un trafiquant notoire, un trafiquant d'armes, un tueur à gages ou quoi que ce soit. Donc, déjà là, quand tu as ça derrière la tête, toi, tu es un policier et ton travail, c'est d'infiltrer ces gens-là et de gagner leur confiance. Au même titre que lorsqu'on fait une émission de télévision et on est figurant ou acteur, on doit faire une bonne prestance pour que ce semble véridique. C'est un peu la même chose. Donc, puis il faut que tu aies derrière la tête que ton travail, eh bien, tu es un policier et ton travail, c'est d'éliminer cette personne-là le plus rapidement possible d'une façon légale, évidemment. Là.
Bon. Est-ce que vous avez déjà eu peur d'être démasqué? Ou enfin, non, vous avez toujours peur d'être démasqué. Est-ce que vous êtes venu proche de vous faire démasquer? Quelqu'un, là, qui a failli voir à travers vous puis découvrir que vous étiez un policier?
Oui, entre autres à une époque où j'étais au centre opérationnel Nord, j'infiltrais un réseau de trafic de crack et puis quand je suis rentré, j'étais habillé en infirmier, je me faisais passer pour un infirmier qui travaillait à l'hôpital pas loin et qui avait besoin de cette drogue-là pour ma consommation personnelle. Et puis la première chose qu'on a fait, c'est qu'on m'a poussé sur le mur pour me fouiller, pour voir si j'avais des micros ou quoi que ce soit, une panoplie, batterie de questions de A à Z pour savoir qui étaient mes relations, comment je connaissais la référence, ainsi de suite. Mais pendant ce temps-là, ça fait tic-tac, tic-tac, la montre, et tes collègues policiers sont dehors, ils disent, bon, ben, regarde, t'as 5 minutes pour compléter ton achat. Si en dedans de 5 minutes, t'es pas sorti, on défonce et on va te chercher. Donc, je suis sorti peut-être 15 secondes avant que les gars étaient en approche pour défoncer la porte. Donc, on s'en est quand même bien sorti, là. Mais oui, effectivement, et avec les méthodes d'aujourd'hui pour obtenir de l'information rapidement, c'est encore plus difficile pour les policiers infiltrateurs à ce moment-là. Parce qu'avec la technologie, les médias sociaux, on peut avoir réponse très rapidement à nos questions.
Évidemment, il y a certains de ces criminels-là qui ont su que vous étiez un policier. Ils l'ont découvert après.
Il le découvre après, évidemment. Il faut qu'il le découvre après parce que ça fait partie de ta sécurité. Ces gens-là doivent savoir que tu es un policier et qu'on ne peut pas s'en prendre à toi par la suite parce que tu as fait ton travail.
Ben, c'était ça ma question. Vous craignez pas à un moment donné que la vengeance vous rattrape?
Oui, je l'ai écrit dans le livre. D'ailleurs, j'ai un de mes informateurs, puis je le stipule dans mon dernier livre, Code 4-1. Philippe, tu vas me sortir de prison. Parce qu'il avait commis un vol qualifié. J'ai dit non, tu as travaillé pour moi, mais c'est pas un billet gratuit pour commettre des crimes. Tu as fait un vol qualifié, tu vas rester en prison. Puis là, lui, il m'a dit, ben regarde, tu vas me sortir d'ici, parce que si tu me sors pas d'ici, t'aimeras pas ça me voir passer en avant de ta maison pendant que tu joues dehors avec tes deux enfants. Ils n'aimeront pas ça, puis t'aimeras pas ça toi non plus. Donc, là, t'avales de travers, puis tu te dis, ouais, est-ce que tout ce que je fais là en vaut vraiment la peine quand tu regardes jouer tes enfants dans le gazon, là?
Mais, alors, comment tu gères ça?
Ben, écoutez, c'est le prix à payer. J'ai été menacé de mort à plusieurs reprises. À un moment donné, le service de police me fournissait un char que je devais changer régulièrement. Je ne devenais pas une créature d'habitude. Je prenais pas toujours les mêmes chemins pour me rendre à la maison. Je n'allais pas toujours dans les mêmes restaurants aux mêmes heures. Donc, on fait ce qu'on peut. Mais il n'y a rien, il y a personne de mieux placé que soi-même pour se protéger dans ces cas-là. Là. Parce qu'il ne faut pas vraiment se fier aux autres.
Parce que vous le dites dans votre livre, l'habitude, c'est ton adversaire. Tes routines, ta routine peut devenir extrêmement dangereuse. Là.
Exactement. D'ailleurs, il y a un criminel qui a été tué il y a quelques mois récemment, Andrew Scopa. Et puis, je l'avais avisé que sa vie était en danger. Et puis, je l'avais avisé qu'il ne devait pas devenir une créature d'habitude. Mais lui s'entraînait régulièrement dans un gym du West Island de Montréal. Et c'est à cet endroit-là que des tueurs à gages l'ont ciblé pour le tuer. Donc, il est devenu une créature d'habitude et puis il en a payé le prix. Donc, c'est malheureux, on voit ça régulièrement, mais quand ça touche la police, que dans le fond, c'est ton travail, ton travail légitime, et que tu dois te protéger de cette façon-là, parfois, c'est difficile sur le moral.
Est-ce qu'on est devenu trop dépendant de la technologie puis pas assez des informateurs sur deux pieds, des personnes humaines qui infiltrent puis qui deviennent... En effet, oui.
Ah oui, c'est clair. Regardez, je vous donne un exemple récent. Il y a eu une fusillade dans le Vieux-Montréal, il n'y a pas tellement longtemps, entre trois policiers et un bandit armé.
Ben oui.
Où ça fait plusieurs blessés. Donc, dans ce monde-là, on fait affaire avec des gangs de rue. Des gangs de rue, c'est un monde qui est quand même difficile à infiltrer, ça, ces petites gangs-là. Donc, ça prend des informateurs. Et d'ailleurs, le directeur de la police de Montréal est venu le dire. On a des informateurs dans ce domaine-là et on va s'en servir. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas de boule de cristal pour travailler et ça devient une méthode rapide pour saisir des armes ou quoi que ce soit. C'est sûr que je pourrais mettre le voleur ou le gars de gang de rue en filature pendant 6 mois, mettre de l'écoute électronique. Mais quand je peux arriver aux mêmes fins, en 15 minutes, avec un informateur bien placé, oui, on les paye, mais ça vaut le prix.
L'informateur type, c'est qui? L'espèce de portrait robot de l'informateur, c'est quelqu'un que, par exemple, quoi, vous l'avez surpris en train de commettre un acte criminel, puis là, vous dites, garde, si tu travailles pour moi, on va passer l'éponge, mais tu travailles pour moi, tu vas me donner de l'info.
Ben, premièrement, on peut pas passer l'éponge. C'est sûr qu'on peut s'arranger que sa sentence soit moins difficile ou quoi que ce soit, mais regardez, la police, on couvre toutes les couches de société. On a des informateurs dans toutes les couches de société. Je l'ai dit tantôt. J'ai eu des juges, j'ai eu des avocats comme informateurs. J'ai eu des criminels notoires.
Vous avez dit, vous avez eu des gens de la politique?
Oui, effectivement. Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Des conseillers municipaux, des députés?
Ça allait jusque-là. Oui, effectivement. Oui, ben. Effectivement.
J'essaie de comprendre, là, un député, mettons, là, qui devient un informateur de police, pourquoi il deviendrait un informateur de police?
Parce que peut-être qu'il a vu des actes criminels se produire et il veut en parler. Je vous donne un exemple, un gérant d'entrepôt, qui a pas de dossier judiciaire, qui est une personne très fiable, mais qui voit de nuit rentrer des cargos de marchandises volées, il veut pas de problème, il communique avec moi pour me donner l'information sous le couvert de l'anonymat. Ça arrive, un juge qui met un terme à midi à sa séance et me demande d'aller le rencontrer à l'arrière pour me dire que son voisin est un trafiquant de drogue et qu'il veut que ça reste sous le couvert de l'anonymat et que je m'en occupe. C'est des informateurs.
Le tueur à gage, lui?
Le tueur à gage, évidemment, oui, c'est un informateur également, mais lui, comme dans plusieurs cas d'informateurs, il va venir donner ce qu'il veut bien donner. Il dira pas ce que lui a fait, il va dire ce que les autres vont faire. Évidemment.
Mais le quoi, il vient vous voir parce qu'il veut éliminer un concurrent qui est aussi tueur à gage parce qu'il veut, il veut garder le marché pour lui? Je veux dire, c'est quoi son intérêt au tueur à gage de devenir informateur? Ben,
il y a plusieurs intérêts pour devenir informateur. Le premier intérêt, c'est évidemment pécunier. Ensuite de ça, souvent, c'est le cas d'un criminel d'habitude qui a été criminel toute sa vie et puis que du jour au lendemain, il est approché par la police et il dit « Ben, regarde, je travaille avec les criminels, puis là, aujourd'hui, je fais quelque chose de bien. Je suis un genre d'agent d'infiltration pour la police. C'est bon pour son ego. Il est payé également. Il n'y a pas de raison miracle. La première raison, c'est évidemment l'argent, malgré qu'ils ne viendront pas millionnaires avec ça. Là.
Mais combien ça peut payer? Mettons, votre informateur qui a gagné le plus gros salaire, entre guillemets, sur une base annuelle, c'est-tu 50, 75, 100 000?
Écoutez, je pourrais vous dire que ça le sciait, mais c'est très rare, là, OK? Dans les 50 000 $, mais c'est très, très rare et c'est dans des cas très spécifiques et uniques où la vie de plusieurs personnes pouvait être en danger, par exemple, ou encore qu'il pouvait, la sécurité nationale pouvait être en danger ou quoi que ce soit, ou une grosse cargaison d'armes qui aurait pu faire en sorte que c'est dangereux. Mais c'est rare parce qu'en général, ces gens-là vont travailler pour des peanuts. On va défoncer une porte pour saisir un kilo de coke avec un fusil mitrailleur, on va lui donner 1 000 ou 1 500 $. Mais l'important dans tout ça, c'est de dire à ces gens-là, regardez, moi, j'irai pas défoncer la porte puis saisir ça si tu es la seule personne qui le sait. Parce que demain, tu vas être mort toi aussi.
Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé que les criminels identifient un de vos informateurs puis qu'ils le passent?
Non, j'ai plusieurs de mes informateurs qui sont décédés parce que c'était des gens du monde interlope qui frayaient là-dedans, là, puis que finalement le passé les rattrape. Mais de dire non, mais par contre, j'ai des avocats de la défense, certains qui œuvrent encore aujourd'hui, certains qui ont été arrêtés, comme Loris Cavalieri, qui, eux, se foutaient de la personne que j'avais arrêtée. Eux, l'organisation les payait pour avoir l'identité de l'informateur et leurs questions ne ciblaient que ça.
Ah oui.
Donc, on voit ça encore aujourd'hui, malheureusement, dans les tribunaux. Certains avocats de la défense ne sont payés que pour ça.
Ils sont pas là pour défendre le client, ils sont là pour aller chercher comment le client s'est fait arrêter.
Wow. Au pâturage, lui.
Yeah, bye-bye. Ah, ben écoutez, c'est un livre franchement très intéressant, là, si vous voulez voir un petit peu les dessous de ce métier. À la fois d'infiltrateur et de contrôleur, d'informateur, Philippe Paul. Donc, code 4-1, le pouvoir de l'informateur. Merci, Philippe Paul.
Ça m'a fait plaisir, M. Drainville. Bonne lecture à tous et bonne journée.
Merci, à la prochaine.
Merci, au
revoir. On s'arrête au retour, le débat Trump-Biden. Bon résumé.